Un auteur, une nouvelle.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots. Bien, chers auditeurs, bonjour. Bon, je me prends pour...
Non, c'est pas mal.
C'était pas mal.
Bonjour.
Donc, eh bien, nous voici pour la dernière émission de l'année, alors, qui, bien sûr, va être consacrée aux histoires de Noël, comme par hasard.
Oui, oui.
Voilà. Donc, aujourd'hui, bien, Philippe m'accompagne. Et puis, alors, en petite musique de fond, on vous a mis la valse des flocons de neige de Tchaïkovski.
Quelle poésie.
Hein, voilà. Hein, c'est... Donc, cette émission consacrée à la magie des récits de Noël, d'auteurs différents, hein, dont on vous parlera dans la plupart d'autres émissions, voilà, dans le reste de l'année. Voilà. Mais là, bien sûr, eh bien, on va commencer par une lettre du Père Noël qu'on écoute tout de suite.
Sommet du monde, pôle Nord. Noël 1929. Chers garçons et chères filles, je suis heureux d'annoncer que nous avons de nouveau un Noël lumineux. Les aurores boréales ont été particulièrement généreuses. J'ai beaucoup de choses à vous raconter. Vous savez que le grand ours polaire s'est entaillé la patte en coupant des arbres de Noël. Sa patte à droite, pas la gauche donc. Bien sûr, quelle maladresse et quelle pitié, car il a passé une bonne partie de l'été à apprendre à mieux écrire pour m'aider à rédiger mes lettres hivernales. Cette année, nous avons un feu de joie pour faire plaisir à l'ours polaire. Afin de célébrer la venue de l'hiver, les elfes des neiges ont lancé ensemble toutes les fusées, ce qui nous a surpris tous les deux. J'ai essayé de vous en faire un dessin. Mais en fait, il y avait des centaines de fusées. Vous ne pouvez pas du tout voir les elfes sur le fond neigeux. Le feu de joie a fait un trou dans la glace et a réveillé le grand phoque, qui se trouvait juste en dessous. Après quoi, l'ours polaire a tiré 20 000 allumettes magiques argentées. Il a vidé toutes mes réserves. Voilà pourquoi je n'en ai aucune à vous envoyer. Puis il est parti en vacances. Dans le nord de la Norvège et a séjourné avec un bûcheron nommé Olaf. Et en est revenu juste au début de la période chargée avec une patte bandée. Il semble qu'il y ait plus d'enfants que jamais en Angleterre, en Norvège, au Danemark, en Suède et en Allemagne. Les pays dont je m'occupe particulièrement, et bien entendu l'Amérique du Nord et le Canada. Sans parler des affaires que je descends au pôle sud pour les enfants qui espèrent qu'on s'occupe d'eux, bien qu'ils soient partis vivre en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Afrique du Sud ou en Chine, c'est une bonne chose que les horloges n'indiquent pas la même heure dans le monde entier, car je ne pourrais pas en faire le tour. Même lorsque mes pouvoirs magiques sont à leur plus haut niveau, à Noël, je peux faire environ 1 000 000 de bas à la minute. Si j'ai tout prévu à l'avance, vous pouvez difficilement imaginer les énormes piles de listes que je dresse. Je les mélange rarement. Mais je suis assez soucieux cette année. Dans mon bureau et dans l'atelier d'emballage, l'ours polaire dicte les noms et je les prends en note. Nous avons eu des rafales de vent horribles ici. Pire que les vôtres, mettant en lambeaux des nuages de neige, hurlant comme des démons. Ensevelissant ma main presque jusqu'au toit. Au pire moment, l'ours polaire a dit qu'il manquait d'air et il a ouvert une fenêtre donnant au nord avant que j'aie pu l'arrêter. Vous imaginez le résultat. L'ours du pôle nord a été submergé par les papiers et les listes, mais cela ne l'a pas empêché de rire. Mon encre rouge et mon encre verte, tout comme la noire, ont été renversées. J'écris donc à la craie et au crayon. Il me reste de l'encre noire, mais l'ours polaire l'utilise pour mettre les adresses sur les colis. J'aimais toutes vos lettres, vraiment beaucoup, mes chéris. Personne ou très peu de monde ne m'écrit autant ou si joliment. Je suis surtout heureux de la carte de Christopher, de ses lettres, et de voir qu'il apprend à écrire. Je lui envoie un stylo plume ainsi qu'une image spéciale pour lui. Elle me montre en train de traverser la mer sur la partie supérieure du vent du nord, tandis qu'une rafale du sud-ouest, les reines la détestent, soulève de grosses vagues en bas. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous adresse tout mon amour. Un pas de plus à remplir cette année. J'espère que vous aimerez votre nouvelle maison et les présents que je vous apporte. Votre vieux Père Noël.
Donc voilà, c'est Tolkien, donc peut-être plus connu voilà, pour l'invention de la Terre du Milieu, donc, hein, les... et puis comme Bilbo les Hobbits par exemple, hein. Donc la Terre du Milieu, bien sûr, c'est dans le Seigneur des Anneaux, et puis il est connu aussi pour tous ses travaux universitaires. Donc en fait, il avait les lettres du Père Noël ont d'abord été destinées à ses trois fils et à sa fille, auxquels chaque année, entre 1920 et 1943, donc pendant 23 ans quand même, hein, il a écrit une lettre, et parfois deux, prétendument envoyées du pôle Nord par le Père Noël ou l'ours polaire. Hein, parce qu'il avait un ours polaire pour le seconder,
bah,
quand
oui,
même.
Il y a beaucoup de boulot. Hein.
Voilà.
Alors moi, je te disais tout à l'heure, Mireille, que cet été, à Aubusson, dans la Creuse, j'ai eu le plaisir de voir une expo de tapisseries de très grand format qui ont été réalisées à partir d'aquarelles que Tolkien faisait pour illustrer ses fameuses lettres de Noël. Donc, magnifique. On s'aperçoit que c'était vraiment un peintre et un dessinateur. Il maîtrisait l'aquarelle, ça c'est sûr. Donc c'est toujours visible, mais il faut se dépêcher un peu, c'est jusqu'au 31 décembre. Moi j'ai été un peu émerveillé, et donc chaque année c'est vrai qu'il illustrait ses cartes pour ses enfants, et puis c'est plein d'humour. Il y a un moment donné où il y a, je sais plus si c'est le Père Noël qui dégringole d'un escalier, enfin.
Oui, bah il arrive plein de. Alors moi j'ai le livre avec toutes les lettres, donc qui sont illustrées.
Donc tu les as vues.
Voilà, et donc c'est vrai que c'est très joli, puis il y a plein d'humour, enfin voilà de.
Ah ouais.
Non, c'est sympa. Et donc la lettre qui est lue là par Jean, c'est le du Noël 1929.
Ça ne nous rajeunit pas.
Ben non, hein. Mais on est débordés. Hein. Enfin,
ah bon,
toi peut-être.
Tu ne me rappelles plus.
Donc maintenant, bah, on vous propose une autre histoire. Donc là, on n'est plus en Angleterre, mais on arrive en Suède, ou en Norvège même.
En Finlande, c'est ça ?
En Finlande.
Oui.
Voilà, en Finlande, pardon. Et donc, on vous laisse découvrir l'histoire qui s'appelle tout simplement Noël.
Noël. Plus on est petit, plus Noël est important. Sous le sapin, Noël est énorme. C'est une jungle verte avec des pommes rouges et des anges tristes qui tournent sagement sur eux-mêmes au bout de leurs fils et surveillent l'entrée de la forêt primitive. Celle-ci s'étend à l'infini dans les boules en verre. Grâce au sapin, à Noël, on se sent protégé de tout. Dehors, il y a l'atelier qui est très grand et très froid. Il n'y a qu'au fond, près du poêle en faïence, qu'il fait chaud. Les flammes et les ombres dansent sur le sol et les jambes des statues sont comme des colonnes. L'atelier est rempli de sculptures, des grandes dames blanches qui ont toujours été là. Il y en a partout. Les mouvements de leurs bras sont indécis et timides. Elles ne vous regardent pas parce qu'elles ne s'intéressent pas à vous et sont habitées d'une tristesse différente de celle de mes anges. Certaines ont un chiffon à argile sur la tête et la plus grande, un linge noué autour du ventre. Les chiffons sont mouillés et quand on passe à côté, ils vous touchent le visage comme des oiseaux blancs et froids dans le noir. Il fait toujours noir le soir. On n'a pas le droit de laver les vitres de l'atelier, car il a une très belle lumière avec ses centaines de petits carreaux, certains plus sombres que d'autres. Les lanternes se balancent et dessinent une autre fenêtre sur le mur. Il y a des étagères solides, les unes au-dessus des autres, toutes chargées de dames blanches, toutes petites celles-là. Elles se font face ou se tournent le dos, mais leurs gestes sont aussi hésitants et timides que ceux des grandes statues. On les époussette tout juste avant Noël. Il n'y a que maman qui a le droit de les toucher, et personne n'essuie les grenades de la guerre d'indépendance. Les dames de papa sont sacrées. Il ne se soucie plus d'elles une fois qu'il les a démoulées, mais pour toutes les autres personnes, elles sont sacrées. En dehors des dames, des fenêtres et du poêle, tout est plongé dans l'ombre à l'atelier. Le long des murs, il y a un tas de choses inquiétantes qu'il est interdit d'explorer. Des armatures métalliques, des caisses remplies d'argile et de plâtre, des moules, des assemblages de bois, des chiffons, des sellettes, et dessous et derrière se faufile la chose mystérieuse aux yeux noirs comme la nuit. Le centre de la pièce est tout vide. Il n'y a qu'une seule sellette avec la dame enroulée de chiffons mouillés, et elle est la plus sacrée de toutes. La sellette à trois pieds, qui projette des ombres raides sur le sol en béton, et le plafond qui est si haut que personne ne peut l'atteindre, en tout cas pas avant l'arrivée du sapin à la maison. Nous avons le plus beau et le plus grand sapin de la ville, et il vaut probablement une fortune, parce qu'il doit être assez haut pour atteindre le plafond et avoir beaucoup de branches. Tous les autres sculpteurs ont de petits sapins rabougris, sans parler de certains peintres qui n'ont pas de sapin du tout. Les gens qui habitent dans des appartements normaux placent leurs sapins sur une table recouverte d'une nappe. Les pauvres, ils achètent leurs sapins en faisant leurs courses. Nous, papa et moi donc, nous levons à 6 heures le matin convenu, parce que les sapins doivent être achetés dans le noir. Nous quittons Skadouten pour aller à l'autre bout de la ville, où il y a un grand port qui accueille la traditionnelle vente de sapins. Nous mettons plusieurs heures à choisir notre arbre, car nous examinons chaque branche pour vérifier qu'elle n'a pas été fixée au tronc. Il fait toujours froid. Un jour, papa s'est pris la cime du sapin dans l'œil. L'obscurité matinale est emplée de silhouettes noires frissonnantes en quête d'un sapin et la neige est couverte d'aiguilles. Il flotte une atmosphère de menace et d'enchantement sur tout le port et la place. Puis l'atelier se transforme en forêt primitive où on peut s'enfoncer incroyablement loin sous le sapin pour s'y cacher. Sous les sapins, il faut se montrer plein d'amour. Il existe également des endroits pour éprouver du chagrin, ou de la haine, par exemple, entre les portes où le courrier arrive. La porte du vestibule a des petits carreaux rouges et verts, elle est étroite et solennelle. Et puis, le vestibule est rempli de vêtements, de skis et de jambières, mais juste entre les portes, là où on a juste assez de place pour se glisser, il y a un espace encore plus petit pour éprouver de la haine. Si on le fait dans une grande pièce, on meurt sur le champ, mais si c'est confiné, la haine retourne à l'intérieur du corps et n'atteint jamais Dieu. Avec les sapins, c'est très différent, en particulier lorsque les boules y sont accrochées. Ce sont des endroits qui renferment l'amour, et c'est pour cela qu'il est terriblement dangereux de les faire tomber. Dès que le sapin arrive dans l'atelier, tout prend un sens nouveau, et même un caractère sacré qui n'a rien à voir avec l'art. Noël commence pour de bon. Maman et moi allons sur les rochers verglacés à l'arrière de l'église russe pour y ramasser de la mousse. Nous fabriquons en glaise le paysage de la nativité avec le désert et Bethléem, chaque fois avec de nouvelles maisons et rues dont nous remplissons les fenêtres de l'atelier. Nous y disposons des miroirs en guise de lac, puis des bergers avec de nouveaux moutons et de nouvelles jambes, car les anciennes se désagrègent dans la mousse. Nous les réduisons soigneusement en poudre pour que l'argile puisse être réutilisée. Lorsque nous sortons la crèche au toit de chaume qui vient de Paris 1910, papa est très ému et boit un coup. Marie est toujours devant, tandis que Joseph doit rester en arrière avec les vaches, parce qu'il a été abîmé par de l'eau et qu'il est plus petit. En dernier vient l'enfant Jésus, qui est en cire et a de véritables cheveux bouclés, comme cela se faisait à Paris avant ma naissance. Une fois qu'il est installé, on doit rester longtemps sans parler. Un jour, Popolino s'est échappé de sa cage et a dévoré l'enfant Jésus. Il a grimpé sur la statue de la liberté de papa, s'est installé sur la garde de l'épée et a englouti Jésus. Nous ne pouvions rien faire et n'osions même pas nous regarder. Maman, en a fait un nouveau en argile et lapin. Nous trouvions qu'il était trop rouge et avait la taille trop épaisse, mais personne n'a rien dit. Noël est toujours rempli de bruissements. Chaque fois, il y a des bruissements mystérieux, avec du papier argenté, du papier doré et du papier de soie, tout plein de papier brillant qui entoure et dissimule tout et donne l'impression qu'on peut gaspiller tant qu'on peut. Il y a des étoiles et des cocardes partout, même dans la potée de choux et sur les onéreuses saucisses que l'on mange avant de passer à du vrai jambon. Parfois, on se réveille la nuit et on entend le bruissement agréable que maman fait en emballant des cadeaux. Une nuit, elle a peint le poêle de petits paysages et des bouquets sur tous les carreaux jusqu'en haut. Elle prépare des rennes en pain d'épices avec des têtes rigolotes, enroule les biscuits en forme de chat avec un raisin de Corinthe au milieu du ventre. Lorsqu'elles sont arrivées de Suède, ces pâtisseries n'avaient que 4 pattes. Mais au fil des ans, elles en eurent un nombre de plus en plus important, ce qui donnait au chat un air sauvage et décoratif. Maman pèse le caramel et les noisettes sur une balance à lait pour que chacun en ait exactement autant. Pendant l'année, les choses se déroulent comme elles peuvent et personne n'a le temps de se montrer aussi méticuleux. Mais Noël est une période de justice absolue. C'est pour ça qu'elle demande tant d'efforts. En Suède, les gens farcissent eux-mêmes leurs saucisses, coulent des bougies, portent des petits paniers aux pauvres pendant des mois et la nuit, toutes les mamans cousent des cadeaux. Le soir du réveillon, elles se transforment toutes en Sainte Lucie. La première fois que papa a vu une Sainte Lucie, il a eu très peur, mais lorsqu'il s'est rendu compte que ce n'était que maman, il a éclaté de rire. Ensuite, il a voulu qu'elle rejoue ce tour chaque Noël. J'étais allongée dans mon alcôve et entendais Sainte Lucie monter les marches, ce qui n'était pas facile pour elle. Tout était d'une beauté céleste et elle avait modelé un cochon en pâte d'amande, comme c'est l'usage en Suède. Puis elle a chanté un peu avant d'aller dans l'alcôve de papa. Maman ne chante qu'une fois par an, parce qu'elle a un problème de corde vocale. Tout autour de nos alcôves, sur la balustrade, elle dispose des centaines de bougies qui attendent d'être allumées juste avant la lecture de l'Évangile. À ce moment-là, leur flamme vacille comme un collier de perles à travers l'atelier. Il y en a peut-être même des milliers. Ces bougies sont très intéressantes lorsqu'elles se consument, car elles peuvent très facilement mettre le feu à la cloison en carton. En fin de matinée, papa s'énerve, car il prend Noël très au sérieux et a du mal à supporter tous les préparatifs. Il redresse chaque bougie et nous met en garde contre le risque d'incendie. Il se précipite dehors pour acheter du houx, une minuscule brindille qui est plus belle que des roses et des orchidées et qu'il faut accrocher au plafond. Il ne cesse de demander si c'est absolument sûr que tout est prêt et trouve soudain que la disposition de Bethléem ne convient pas du tout. Puis il boit un coup pour se calmer. Maman écrit des vers et sort les restes de rubans dorés et de papier cadeau de l'année précédente. Le soir arrive et papa va au cimetière avec des noisettes pour les écureuils et pour regarder les tombes. Il ne s'est jamais particulièrement intéressé aux gens de la famille qui y reposent et ils ne se sont pas beaucoup souciés de lui non plus car ils étaient des parents assez éloignés et très bourgeois. Mais à son retour, papa est triste et encore plus ému car le cimetière est magnifique avec toutes ses bougies. Quoi qu'il en soit, les écureuils ont enterré un tas de noisettes près des caveaux en dépit de l'interdiction. C'est quand même une pensée réconfortante. Après le repas, il y a une longue pause pour marquer l'arrivée de Noël. Nous nous étendons sur nos lits dans le noir et écoutons maman qui fait des bruissements près du poêle. Dans la rue, tout est silencieux. Rien n'est plus calme que lorsque Noël est passé, quand on était pardonné pour tout et qu'on peut redevenir normal. Petit à petit, on range tous les objets sacrés et on remet les boîtes dans le placard du vestibule. Les branches de sapin brûlent dans le poêle en produisant des petites explosions. Le tronc, lui, on ne le brûle qu'au Noël suivant. Il reste toute l'année près de la caisse à plâtre pour nous rappeler Noël et la sécurité absolue qui enveloppait toute chose.
Voilà un joli conte de Noël.
Hein, joli, avec les belles décorations faites maison.
Alors, c'est Tove Jansson, voilà, qui est née le 9 août 1914 à Helsinki et décédée le 27 juin 2001. Donc, écrivaine, peintre, illustratrice et dessinatrice de bande dessinée finlandaise parlant suédois. hein, puisque les Suédois avaient envahi la Finlande. Donc il y a toute une partie, toute une génération de Finlandais qui parlent suédois, en fait. Donc elle est connue pour son œuvre, hein, Les Moumines. Donc c'est des livres illustrés pour les enfants. Et en 1966, elle reçoit pour sa contribution en tant qu'auteur de livres pour enfants, le prix Hans Christian Andersen. Voilà.
Alors, Les Moumines, j'ai regardé, Mireille, et ça a été décliné aussi, c'est des gentils trolls, hein, c'est ça?
Oui.
Ça a été décliné en peluche, des espèces de petits hippopotames. Je trouve que Barba Papa a dû s'inspirer des Moumines. C'est un côté Barba Papa.
Et donc, on parlera plus longuement de cet auteur dans la prochaine émission qui va lui être consacrée, donc l'émission du mois de janvier. Donc là, on va toujours rester dans le Nord. Là, ça se passe à Paris, mais il s'agit du réveillon du colonel Jerkov. Qui est russe, hein, bien sûr.
Comme son nom l'indique.
Et donc, je vous propose de l'écouter, puis on en parlera après.
Serge Milakovitch Jerkov, colonel à la garde impériale, enleva son cache-poussière, baissa le rideau de fer et sortit de la librairie où, toute la journée, pour un salaire assez misérable, il ficelait des paquets de volumes. Son pardessus était mince. Le soir était d'un froid acide. Jerkov marcha très vite. Il atteignait bientôt le boulevard Saint-Michel et se dirigea vers la rue Tournefort, où il occupait une chambre mansardée. Une fatigue profonde pesait sur ses membres et faisait le vide en son esprit. Elle venait de si loin qu'il la subissait sans l'apercevoir. Des mois de lutte mortelle en Russie, des années de privation à l'étranger, les occupations mécaniques, fastidieuses et sans issue, auxquelles il était astreint, y avaient ajouté un sceau définitif. Il allait à travers une cohue de passants, sans remarquer qu'elle était plus dense et désœuvrée qu'à l'ordinaire. Pour lui, ce soir-là ne différait pas des autres. Il irait, comme tous les jours, acheter quelques provisions, préparerait son dîner sur une lampe à pétrole et se coucherait très las. Dans l'épicerie où il se fournissait régulièrement, il eut une surprise. La pièce était pleine de chalands, ménagères affairées, petits gens, pour qui la vie matérielle était chaque matin une équation difficile à résoudre, choisissaient des victuailles que, à l'ordinaire, leur état leur interdisait. Le colonel se souvient qu'on était au 24 décembre, le soir du réveillon. Il lui sembla que son cœur s'alourdissait. La joie des autres et cet air de fête qui embellit les plus humbles visages lui rendaient tout à coup plus cruelle et comme neuve sa misère, sa tristesse, sa solitude. Hâtivement, il fit ses achats, monta dans sa chambre. Pour la première fois, il en vit toute la pauvreté. Mais sentant obscurément que l'indifférence norme qui l'imprégnait d'habitude lui permettrait seul de supporter la vie qu'il aimait. Serge Milakovitch se contraignit d'un rude effort à poursuivre, sans réfléchir, l'accomplissement machinal de ses gestes quotidiens. Il arriva ainsi à préparer son bref repas, à le manger sans goût. Mais lorsque vint l'heure de se déshabiller, la force lui manqua. Le sourd travail intérieur que sa volonté avait réussi à masquer jusqu'à là portait ses fruits amers. Dans cette nuit joyeuse, entouré par l'immense ville dont il semblait entendre la rumeur de plaisir, le sommeil ne viendrait point. Et la pensée d'étendre son corps sur le grabat dur et glacé pour n'y point dormir lui fut intolérable. Il se mit à marcher à travers la chambre, tandis qu'une angoisse vacillait dans ses yeux. Des images fragmentées se bousculaient sous son front. Il ne pouvait s'attacher à aucune d'elles, mais tout apportait un lambeau de détresse qu'il était impuissant à vaincre. Inconsciemment, Jerkov s'arrêta devant sa malle, l'ouvrit et, d'une enveloppe, tira 2 billets de 100 francs. Puis il se passa la main sur les tempes et murmura comme réveillé : « Je suis fou ». Un sourire douloureux crispa sa bouche. Il venait de comprendre qu'il voulait, lui aussi, quelque part dans le bruit, la lumière et le vin, fêter le réveillon. Il haussa les épaules. Quel rêve enfantin! Cet argent qui tremblait entre ses doigts était sa réserve suprême contre l'inconnu. Longtemps, le colonel resta immobile, rêvant. Et brusquement, l'appel invincible, venu du plus profond de sa chair, qu'il avait jeté au cœur des rouges batailles, qui lui avait fait gagner et perdre des fortunes sur un coup de dé. Cet instinct du risque et de l'oubli, que sa vie terne d'émigré avait pu réduire, mais non pas supprimer, l'emporta. Il chiffonna les deux billets, les glissa dans sa poche, descendit l'escalier roide, arrêta une voiture et au chauffeur, il cria de sa voix de grand seigneur, miraculeusement retrouvé, « À Montmartre !» Intrigué, les soupeurs examinaient cet homme, haut de taille, qui, seul, à une table, inclinait son fier visage meurtri sur une coupe de champagne. L'usure de ses vêtements étonnait parmi le luxe insolent, mais ses mains étaient si parfaites qu'elles anoblissaient ses manchettes élimées. Un orchestre nègre faisait trembler les cristaux. La clarté des lustres avait l'éclat et la dureté d'un métal en fusion. Mais le tumulte et la lumière, les rires et les danses, loin de verser au colonel Serge Milakovitch cet anéantissement de la mémoire qu'il était venu chercher, lui donnait au contraire une acuité terrible de souvenir. Il n'avait pas encore touché au vin doré, mais dans sa trame palpitante, les yeux de Tcherkov retrouvaient tout un monde évanoui. Une file de traîneaux, attelée de troïkas couverts de sonnettes claires, glissait comme une tempête heureuse sur la neige aux reflets bleus de lune. Les cochers excitaient les chevaux, écumant avec des cris affectueux et farouches. Dans la capitale entière, ce n'était que son de cloches de Noël et bruit de chansons. La Neva royale et glacée brillait entre les perspectives de palais et d'églises. On allait aux îles. Déjà la griserie chauffait le sang des hommes, amollissait le regard des femmes. L'air vif et pur y mêlait une allégresse légère et pleine de fraîche volupté. Puis les tziganes, leurs troupes faisaient tressaillir des violons et des gorges toute la joie, toute la tristesse. Les rudes mélodies, nées dans les steppes du bruissement des herbes et du murmure des eaux, animaient les romances vulgaires d'ivresse, de désespoir et d'amour. Et le colonel Tcherkov se rappela celui qui menait le cœur brutal et superbe, Mitka la canaille, avec ses yeux d'ébène polis, ses joues grasses et sa voix cuivrée. Mitka l'incomparable, à qui l'on jetait l'or par poignée pour qu'il exaspérât encore l'ardeur frénétique des siens. Une colère souleva Serge Milakovitch contre sa propre naïveté. Comment avait-il pu croire qu'après des réveillons pareils, il trouverait quelque plaisir à une fête mesurée? Pour s'étourdir, il vida d'un trait sa coupe, mais le champagne lui parut fade. Il appela le garçon, lui jeta ses deux derniers billets et se leva. Mais un tressaillement le raidit. L'orchestre s'était tu et d'une draperie qui se levait surgit, bariolée et sonore, une troupe bronzée aux dents éclatantes. « Les tziganes !» murmura le colonel. Il retomba sur sa chaise. Les archets, comme des flammes, coururent sur les cordes chantantes. Les voix riches et meurtries montèrent dans la salle enfumée. Tout s'effaça pour Tcherkov. Sa famille massacrée, sa misère sans issue, les travaux mesquins, l'existence ruinée. Il ne vivait plus que dans les rythmes barbares et splendides, dans cet orage déchaîné de joie et de somptueux désespoir. Sur un accord brusque, la mélodie mourut. Un lourd enchantement empressa le colonel. Mais une assiette pleine de billets étendue devant lui vint l'en tirer. Machinalement, il fouilla ses poches. Elles étaient vides. Il leva les yeux confus sur le quêteur et un tremblement le secoua. Mitka, c'était Mitka. Les années n'avaient point entamé la ronde fermeté de sa figure. l'éclat luisant de ses yeux, ni son sourire familier et servile. Le Tzigane aussi l'avait reconnu. Ses prunelles vives coururent sur les traits émaciés de Djerkov, sur son veston fripé. Il s'inclina respectueusement et dit en russe « Ne vous en allez pas avant la fin de votre excellence, Serge Milakovitch. Nous fêterons le Noël comme au bon vieux temps. » Jusqu'à l'aube, dans un cabinet particulier, Mitka la canaille, en souvenir de Nuit des îles, soula Djerkov de ses chansons préférées. Et le colonel eut contre lui, attentive à ses désirs, deux filles au sein brun.
Voilà une histoire donc de Joseph Kessel qui est paru pour la première fois en 1929. Donc dans un recueil qui s'appelait Contes, tout simplement. Alors Joseph Kessel, hein, c'est un romancier français élu à l'Académie française en 1962. Il est né le 31 janvier 1898 à Villa Clara en Argentine et est mort le 23 juillet 1979 à Avernes dans le Val d'Oise. Il va publier son premier grand succès, L'équipage, à 25 ans, d'après son expérience d'aviateur pendant la Première Guerre mondiale. Et puis après la guerre, il va se consacrer en parallèle au journalisme et à l'écriture romanesque. Il participe à la création de Gringoire, un hebdomadaire politique et littéraire qui devient l'un des plus importants de l'entre-deux-guerres et signe des grands reportages à succès pour Paris Soir, que dirige alors Pierre Lazareff. Alors il publie notamment Belle de jour, qui fait scandale et reste entouré d'une réputation sulfureuse jusqu'à son adaptation cinématographique en 67 par Luis Buñuel. Et puis quand éclate la Seconde Guerre mondiale, il est correspondant de guerre, puis rejoint la résistance et rallie le général de Gaulle à Londres. Il y compose alors avec son neveu Maurice Druon les paroles du Chant des partisans qui devient l'hymne de la résistance. Et il va écrire L'armée des ombres, en hommage aux combattants de l'ombre, hein, puis finit la guerre comme capitaine dans l'aviation. Après la libération, il retourne au voyage, dont il tire de grands reportages et la matière de romans, dont celui qui est considéré comme son chef-d'œuvre romanesque, Les Cavaliers, ou encore Le Lion, qui rencontre un immense succès.
Ah bah oui, Le Lion, on en parlait tout à l'heure, hein. On voilà. L'a lu en sixième ou en cinquième.
Voilà, c'était ça.
Moi, je crois que c'est le premier grand livre que j'ai lu. Et puis par la suite, je te disais, j'ai lu Mermoz, un des pionniers de l'aéropostale. C'est hyper bien écrit. Et puis tu as parlé de L'Armée des Ombres. Je crois que...
Il y a eu un film aussi.
Jean-Pierre Melville, je crois que c'est, pour moi, c'est le meilleur film sur la résistance, avec Lino Ventura, entre autres, et Simone Signoret. C'est un très, très grand film.
Bah oui, un très beau film.
Ouais.
Donc, voilà. Donc, on va aussi consacrer une émission à Joseph Kessel.
Avec plaisir.
Eh bien, pour rester toujours dans le Nord, là, on va vous lire là une histoire qui s'appelle « Le livre de Noël ». Et voilà, donc on va écouter ça tout de suite.
Le livre de Noël. Nous sommes assis autour de la grande table à rallonge, un soir de réveillon à Marbacka. Papa est à l'une des extrémités, maman à l'autre. Oncle Wackenfeld est là aussi, à la place d'honneur à côté de papa. Et tante Lovisa, et Daniel, Anna, Gerda et moi. Comme toujours, Gerda et moi sommes assises de part et d'autre de maman, parce que nous sommes les plus jeunes. L'image reste très claire dans mon esprit. Nous avons déjà mangé la morue à la lessive, le riz au lait et les millefeuilles. Assiettes, cuillères, couteaux et fourchettes ont été débarrassées, mais la nappe est restée. Les deux bougies à plusieurs branches fabriquées maison brûlent dans leur candélabre au milieu de la table, entouré de la salière, du sucrier, de l'huilier et d'un gros cruchon en argent rempli à ras-bord de bière de Noël. Le repas étant terminé, nous devrions quitter la table, mais ce n'est pas le cas. Nous restons assis dans l'attente de la distribution des cadeaux de Noël. Nulle part ailleurs dans la région du Markaba, on distribue ainsi les cadeaux de Noël après avoir mangé le riz au lait traditionnel. Mais à Marbacka, subsistent d'anciennes coutumes et qui nous conviennent. Rien ne peut égaler cette attente qui, des heures durant, tout au long de la veille de Noël, se prolonge parce que l'on sait que le meilleur reste à venir. Le temps s'écoule lentement, très lentement, mais nous sommes convaincus que les autres enfants, qui ont reçu leur carte d'eau vers 6 ou 8 heures, n'ont pas éprouvé cette jouissance qui est la nôtre en ce moment, en cet instant tant attendu et qui enfin arrive. Les yeux brillent, les joues s'enflamment, les mains tremblent lorsque la porte s'ouvre pour laisser entrer les deux domestiques déguisés en boucs de Noël et qui traînent deux grosses hottes pleines de paquets jusqu'à la place de maman. Puis maman extrait un paquet après l'autre sans se presser outre mesure. Elle lit le nom du destinataire, parcourt avec difficulté les vers rimés, gribouillés qui accompagnent les cadeaux, puis enfin les temps. Pratiquement muet durant les premiers instants, tandis que nous brisons les seaux et déplions les papiers, nous poussons bientôt, l'un après l'autre, un cri de joie. Puis nous parlons, rions, examinons l'écriture de nos paquets, comparons nos cadeaux et laissons la joie nous envahir. Le réveillon auquel je pense en ce moment, je venais d'avoir 10 ans et je suis assise à la table de Noël, aussi impatiente et tendue qu'on peut l'être. Je sais si bien ce que j'aimerais recevoir. Il ne s'agit ni de beaux tissus pour confectionner des robes, ni de dentelles ou de broches, ni de patins à glace ou sachets de friandises. Non, il s'agit de tout autre chose, pourvu que quelqu'un ait l'idée de me l'offrir. Le premier cadeau que je sors de son emballage est une boîte à ouvrage, et je comprends immédiatement qu'il est de maman. La boîte contient de nombreuses petites cases à l'intérieur desquelles elle a rangé des paquets d'aiguilles, de la laine à repriser, un écheveau de soie noire, de la cire et du fil. Maman tient sans doute ainsi à me rappeler que je devais essayer de faire des progrès en couture et pas seulement songer à la lecture. Anna m'offre une petite pelote à épingle très joliment galonnée et qui s'adapte à une des cases de la boîte à ouvrage. Tante Levisa me fait un cadeau d'un dé à coudre en argent et Gerda a brodé un petit modèle d'initiale qui me permettra dorénavant de marquer moi-même mes bas et mes mouchoirs. Aline et Emma Laurel sont rentrées chez elles, à Karlstadt. Mais elles ont pensé à moi et à nous tous. De la part d'Aline, en me tend de petits ciseaux de brodeuse rangés dans un étui qu'Aline a confectionné elle-même à partir d'une pince de homard et d'un coupon de soie. Emma m'offre un petit hérisson de laine rouge bardé d'épingles en place de ses piquants. Toutes ces petites choses que je viens de recevoir sont avant tout pratiques, mais je commence à m'inquiéter. J'ai là tout ce qu'il faut pour la couture, mais si jamais je ne recevais pas ce que j'espère. Car il me faut expliquer comment les choses se passent à Marbacka le soir du réveillon. On a le droit de tirer une petite table au chevet de son lit et d'y poser une bougie, et puis, l'on a le droit de lire aussi longtemps qu'on le désire. Et cela constitue le plus grand des plaisirs de Noël. Rien ne peut surpasser le bonheur de se trouver là, avec dans les mains un livre plaisant, reçu en cadeau de Noël, un livre que l'on n'avait jamais vu auparavant et que personne d'autre dans cette maison ne connaît non plus. Et de savoir que l'on pourra en lire les pages, les unes après les autres, pour autant que l'on sache rester éveillé. Mais que faire durant la nuit de Noël si l'on n'a pas reçu de livre? C'est à cela que je pense, tandis que, en élément après l'autre, je découvre mon nécessaire de couture. Mes oreilles commencent à s'échauffer. Assurément, il s'agit là d'une véritable coalition. Et si jamais je ne recevais pas de livre de Noël? Daniel m'offre une délicate aiguille à crocheter en os. Johan, une jolie petite plaque à enrouler les écheveaux. Et pour finir, papa me présente un gros cadeau. Un tambour à broder qu'il a commandé à l'excellent menuisier d'Askerby. Parfaitement identique, m'explique-t-il, à celui que ses sœurs utilisaient quand elle et lui étaient petits.